MCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Ce programme a été conçu pour vous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ. Vous serez alors capable de connaître, imiter et de suivre l'exemple de Jésus-Christ à travers la parole de Dieu. Car un disciple accompli, vous savez, il est comme son maître. Nous allons commencer aujourd'hui une toute nouvelle série, celle qui sera intitulée « La puissance de la parole de Dieu ». La puissance de la parole de Dieu. Il est important qu'un disciple de Jésus connaisse la puissance de la parole de Dieu. Et pour cette toute première séance, nous allons parler de ce que c'est que la parole. Pas encore de Dieu, mais la parole. Quand la Bible utilise l'idée de la parole, c'est pour dire quoi en réalité? Je vais tenter tout à l'heure de présenter d'abord l'idée générale de la parole, même au niveau de l'être humain, mais aussi qu'est-ce que l'expression biblique du mot « parole » ? Quand vous voyez apparaître la parole dans la Bible, ça apparaît souvent dans quel contexte ? Je ne veux pas tout épuiser. Vous savez bien que Teach a pour but de nous permettre de résumer ces vérités de manière à les comprendre et tout de suite les vivre. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Qu'est-ce qu'on entend par la parole ? J'aimerais qu'on lise ensemble Matthieu, chapitre 22, versets 29 à 30, qui nous mettra vraiment dans le contexte de cette série appelée « La puissance de la parole de Dieu ». Matthieu, chapitre 22, versets 29 à 30. Je lis. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point des femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Ici, à l'époque de Jésus, il y avait différents groupes religieux. Il y avait des pharisiens, des sadducéens. Et l'un de ces groupes va voir Jésus dans le but de lui donner un exercice philosophique, théologico-philosophique. En fait, ils font un cas, une réflexion, et ils voudraient présenter à Jésus cette difficulté. Donc, ce n'est pas d'hier que les textes sacrés contiennent de points de difficulté qui demandent une meilleure interprétation et une très haute sagesse. Ils viennent, ils disent à Jésus, bon, toi qui crois à la résurrection, parce que les pharisiens croyaient à la résurrection et les sadducéens non. Donc les sadducéens viennent le voir, lui disent, on a un cas ici. Disons qu'il y avait un homme qui, voilà, il avait une femme et l'homme est mort parce que le lévira qui était dans la culture juive qui permettait donc à un frère de reprendre la femme de son frère. Alors cette femme a finalement eu 7 frères différents. Ils lui disent, maintenant à la résurrection. Qui sera son vrai mari? Ils vont se retrouver là-bas, la même femme a eu 7 maris, qui sera son véritable mari? Jésus le regarde et dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez pas deux choses, ni les Écritures, la parole de Dieu, mais vous ne comprenez pas non plus la puissance qui sous-tend cela. Vous ne comprenez pas non plus de quoi Dieu est capable dans les choses qu'il est en train de dire. Il est important qu'on puisse savoir à mélanger ces deux-là. La parole et la puissance de Dieu, ça va ensemble. C'est Jésus qui leur démontre, il dit, vous croyez vraiment que vous avez la capacité de prendre la femme de l'autre comme ça, comme la coutume vous le propose, et Dieu n'a rien prévu pour des cas comme celui-là? Mais bien sûr que Dieu a bien prévu par sa puissance que lorsque de l'autre côté les hommes seront ressuscités, ils aient plus les mêmes besoins. Vous pensez que Dieu n'est pas capable de ôter ces besoins-là et de vous faire regarder l'un à l'autre comme frères et sœurs? Donc, les sadducéens n'avaient pas la conscience de la puissance dans la parole de Dieu. Et ce que nous tentons de faire ici, c'est de nous démontrer la puissance de la parole de Dieu. Mais en commençant d'abord par définir ou à voir qu'est-ce que l'idée de parole dans la Bible. Quand on dit parole dans la Bible, quand on dit parole dans la théologie, dans les choses de Dieu, mettez souvent ceci en tête. La parole est l'expression de l'état d'esprit. Je ne parle pas ici seulement de Dieu, mais la parole, la fonction d'une parole, même la parole d'un être humain, révèle son état d'esprit. La parole révèle ce que tu es dedans. Lorsqu'une personne parle, il révèle son état d'esprit. J'aimerais le dire en ces mots. La parole est la main de la pensée. La parole est la main de la pensée. C'est-à-dire, lorsque la pensée veut te serrer la main, lorsque ce qu'une personne pense veut entrer en contact avec toi, c'est à travers la parole que cela se fait. Lisons ensemble Matthieu, chapitre 12, versets 33 à 36. Matthieu, chapitre 12, versets 33 à 36. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race des vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Vous entendez? Comment pourriez-vous dire des bonnes choses méchants comme vous l'êtes à l'intérieur? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Jésus est en train de leur expliquer que vous ne pouvez pas là venir dire, je l'ai dit seulement, c'était que sur mes lèvres. Non, non, non. Ce qui sort des lèvres vient du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Elle dit, comment pourrez-vous dire des bonnes choses aussi méchants que vous êtes? Tel arbre, tel fruit. L'état d'esprit d'une personne se révèle à travers ses paroles. C'est que quelqu'un est à l'intérieur de lui, son esprit. Comment va son esprit en ce moment-là? Ça se révèle à travers ses paroles. Et du coup, c'est comme ça qu'on reconnaît l'esprit de Dieu, à travers les paroles de Dieu. L'esprit de l'homme, à travers les paroles de l'homme. Donc premièrement, quand on dit parole dans la Bible, ayez en esprit que lorsqu'on dit parole, on dit comment l'esprit se manifeste, comment l'esprit fait connaître sa volonté. Deuxièmement, quand on dit parole dans la Bible, c'est l'engagement solennel d'une alliance. Il y a cette idée qui revient plusieurs fois dans la Bible. Je vous ai dit qu'il y en a beaucoup, mais j'ai retenu quelques idées seulement pour attirer notre attention. L'engagement solennel d'une alliance. L'idée de la parole dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament reviendra toujours dans le sens où on a donné un sceau, un gage, une signature, une garantie de l'engagement qu'on a pris. À l'époque de la Bible, les gens ne donnaient pas beaucoup de choses. Des fois, des grands et des très, très grandes alliances se sont faites rien que par l'engagement de la parole. Je le jure, sur l'honneur, je le dis. Aujourd'hui, la parole ne vaut plus rien. Oh, aujourd'hui, les gens te donnent la parole, demain, ils font autre chose. Ouf. Aujourd'hui, les gens n'hésitent plus de mentir. Très peu de personnes donnent leur parole avec honneur. Mais dans la Bible, l'idée de la parole, c'est justement ce gage que tu viens poser à table pour faire une alliance. Mais de nos jours, les gens font plus confiance à leur encre qu'ils ont mis sur un papier. Parce qu'ils ont signé, ils se disent « là, nous sommes liés ». Mais dans le temps de la Bible, parce que la parole est prononcée, Dieu a entendu, les anges ont entendu, j'aimerais même dire, les démons ont entendu, les éléments de la terre ont entendu, il n'y a pas d'engagement aussi puissant que la parole prononcée. Exode chapitre 13, versets 11 à 12 le montre. Exode chapitre 13, versets 11 à 12. Quand l'Éternel vous aura fait entrer dans les pays des Cananéens, comme il vous l'a solennellement promis, à vous et à vos ancêtres, et qui vous l'aura donné, vous lui offrirez tout garçon premier-né et les premiers-nés mâles de votre bétail lui appartiendront. Dieu veut promettre, il veut faire un engagement solennel. Moi, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, je m'engage. Dieu, donne-nous une preuve, quelque chose qui nous assure. Sur ma parole, parce que j'ai parlé, je m'engage. La parole dans la Bible est l'expression même d'un engagement. Qui libère sa parole s'engage. Qui dit s'engage. De nos jours, les gens blaguent avec les paroles, vraiment beaucoup. Mais ce n'est pas parce que les gens ne respectent plus leurs paroles que la parole ne fonctionne plus comme elle fonctionnait. La parole a toujours même fonction. Quand vous parlez, vous engagez. Que vous preniez ça au sérieux ou non, vous vous êtes engagé. La parole reste l'instrument d'un engagement solennel. La parole. Nous sommes en train d'étudier ensemble avec vous, durant toute cette semaine, vous allez les découvrir, la puissance de la parole de Dieu. Mais avant d'entrer dans la parole de Dieu, aujourd'hui, je pensais qu'on peut mieux comprendre ensemble comment les idées qui viennent avec la pensée de parole dans la Bible. J'ai choisi quelques idées qui sont dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament qui peuvent nous permettre de commencer à comprendre quand on dit parole, quelle en est la fonction, quelle en est la teneur. J'ai dit d'abord que la parole, c'est l'expression d'un état d'esprit. C'est comme une personne est à l'intérieur de soi, lorsqu'elle veut s'exprimer, c'est à travers une parole. Je vous ai laissé avec ce mot, que la parole était la main de la pensée. C'est par la parole que la pensée touche, que la pensée vous touche. Vous savez, vous avez déjà dit deux fois, il m'a touché avec ce qu'il a dit. Pas avec les mains, mais il m'a touché. Mais ce qu'il vous dit était dans sa pensée. Mais lorsqu'il a verbalisé sa pensée est devenue suffisamment puissante pour venir te toucher. La parole se déplace plus vite que nos jambes. La parole touche des parties que nos mains ne peuvent pas toucher. Quand tu parles à quelqu'un, tu peux lui faire pleurer. Juste lui faire pleurer. Je me souviens, une de mes filles, elle déteste tellement tout ce qui est seringue, tout ce qui est piqûre, oh là là. Dès qu'elle est en face de ça, elle se met à pleurer, sans qu'on l'ait touché. Deux fois, juste l'idée, lorsqu'on lui dit, puisque tu ne te sens pas bien, on va aller à l'hôpital. Dès qu'on a dit « hôpital », les larmes coulent de ses yeux. « Je ne veux pas qu'on me pique. C'est un deuil qui commence. Je ne veux pas qu'on me pique. Je vais bien, je ne veux pas qu'on me pique. Donne-moi seulement les médicaments. » Oh, tu pleures, pourquoi? On ne t'a même pas piqué, tu ne sais même pas si ça te fait mal. Cette parole a réveillé tout en moi. Frère, nous sous-estimons le pouvoir de la parole. Le fait que Dieu a donné ça à l'humain, non pas aux autres êtres, comme les animaux, comme les arbres. Le fait que Dieu a donné ça seulement à l'être humain, Dieu nous a donné un héritage fort de sa nature. Puisqu'il est de la nature de Dieu de parler, le fait qu'il nous a rendus des êtres parlants, il nous a conféré un puissant pouvoir sur l'humanité. N'oubliez pas, tout ce qui existe, Dieu l'a créé par sa parole. Et comment Dieu a-t-il agi? Comment Dieu a-t-il tellement agi pendant 6 jours, au point qu'au 7e, il demande de se reposer? Juste en parlant. Celui qui parle fonctionne. Celui qui parle travaille. La parole est la main de la pensée. Mais je viens aussi de vous dire que la parole est un engagement solennel. La parole vous engage dans une alliance. Ce que vous dites vaut mieux que tout ce que vous signez. Parce que vous pouvez avoir signé le papier, vous pouvez vous détourner, mais vous l'avez dit. Je me souviens une fois, un jeune homme a pris un engagement avec une jeune fille. Il a accepté qu'ils se marieraient, ils se sont mis en couple. Ils n'avaient pas encore officialisé leur engagement et que ce jeune homme-là s'est détourné. Et à l'insu de celle qui était devenue son épouse carrément, dans le sens où ils vivaient déjà ensemble et qu'ils avaient déjà un enfant, à son insu, il est allé doter quelque part, faire un autre processus d'engagement de mariage à une autre fille. Et il a commencé un autre foyer à son insu. Mais puisqu'ils avaient déjà fait un premier pas de mariage, ils avaient déjà vu la famille et ils s'étaient déjà engagés, cette jeune fille était tellement dans la douleur qu'elle s'est dit, si vraiment ce garçon m'avait fait cette promesse, il m'avait dit ceci. Si vraiment il a dit ça, Seigneur, ne laisse pas ses paroles en l'air. À cause de ce qu'il a dit, elle a dû prononcer des paroles qui étaient très dures. Et c'est ce qui est arrivé à ce jeune homme. Durant tout le temps dans ce soi-disant nouveau mariage, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Jusqu'à ce qu'elle rentre voir cette jeune fille. Ce n'était pas la sorcellerie, ce n'était pas une malédiction. Mais la fille en a fait appel à la parole qui a été prononcée. Faites attention aux choses que vous dites. Vous posez sur la table quelque chose que tout le monde peut utiliser. Vous pouvez arracher les feuilles du contrat. Mais ne vous laissez pas tromper par l'expression française qui dit « je retire mes paroles ». Hein? Ça ne se passe pas comme ça, spirituellement. Quand une parole est libérée, il en faut une autre pour annuler la première. Mais malheureusement, on ne retire pas la parole. Il y a un dicton qui dit « La parole ressemble à un clou que l'on frappe en coup de marteau sur du bois. même quand on a retiré le clou. La trace reste. La parole, mes amis, c'est un engagement fort. Quand on utilise la parole, on s'engage et on engage. Devant les hommes, devant Dieu, devant les esprits, on engage. Chaque fois que vous libérez une parole, sachez qu'il y a toujours un témoin. Pas toujours visible, mais même invisible. Il y a des témoins derrière chaque parole que vous êtes en train de prononcer. Troisième chose, qu'est-ce que c'est que la parole? Dans la Bible, lorsque vous allez voir apparaître les termes « parole », sachez que ça a aussi trait à la personne de Jésus-Christ. Quelquefois, le mot « parole » dans la Bible veut simplement dire Jésus-Christ. La parole de foi dans la Bible fait référence à Dieu lui-même fait chair, venu au milieu des hommes, Jésus-Christ, le roi de gloire. Alors, dans la Bible, parole de Dieu alors, parole prononcée par Dieu, tient donc le sens de la personne, de la mission de Jésus-Christ de Nazareth. Prenons Jean chapitre 1, bien sûr, vous y attendiez. Jean chapitre 1, verset 14. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dans le livre de Jean, au chapitre 1, il introduit ce livre de Jean un peu comme le livre de la Genèse. La Genèse commence par « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu ». Non, elle commence plutôt par « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, le cieux et la terre. La terre était informée vide, il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme et ainsi de suite. » Mais Jean commence par « Au commencement était la parole était avec Dieu. » L'une des raisons pour lesquelles Jean aborde son thème comme ça, c'est parce qu'à cette époque, il est possible qu'il y avait beaucoup de philosophes. Et la philosophie avait tendance à insister sur l'essence de ce mot « logos ». Le « logos » était considéré comme l'idée de la pensée, la base de toute pensée. Et les philosophes commençaient à se dire, au départ, au commencement de toute chose, c'est d'abord le « logos », c'est d'abord cette pensée. Alors ici, Jean, par la tentative d'emprunter leur philosophie pour la clarifier, un peu comme ce que Paul a fait à Athènes en disant « J'ai vu un temple qui est consacré à un Dieu inconnu, c'est de ce Dieu-là que je vous parle. » Certains commentateurs disent que Jean a utilisé cette expression pour partir de ce qu'ils connaissent, pour les amener vers ce qu'ils ne connaissaient pas. En leur disant, oui, au commencement, bien sûr, tout a commencé par le Logos, mais le Logos au début était avec Dieu. Le Logos, là, était Dieu. Et il a commencé à leur expliquer c'est quoi le Logos. Et là, il arrive en disant, que la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et puis, il arrête de parler la parole. Il dit, en elle était la vie. La vie était la lumière du monde. Il passe maintenant à la lumière. La lumière est lui dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Et puis, il rentre encore dans la parole en disant, la parole s'est faite chair. On sait de qui il parle. Il parle de Jésus de Nazareth. Et donc, lorsqu'on est en train d'enseigner ici sur la parole, sachez que plusieurs fois dans la Bible, l'idée de la parole, c'est la parole de Dieu. Et donc, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. La parole est une personne. Vous imaginez ça? Comment la parole est une personne? C'est ce que Jean essaie d'expliquer en clarifiant Genèse chapitre 1. Si au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, Dieu dit, c'est parce qu'au commencement, la parole créa le ciel et la terre. Et donc, la parole agit en créant le ciel et la terre. Jésus et la parole de Dieu. Dieu, quand il parle, ne voyait pas un souffle impersonnel qui n'a aucun pouvoir et aucune conscience, qui serait sorti d'une bouche. Juste une bouche a parlé, un vent est parti sans conscience. Nos mots, quand on les a cités, ils sont où, on ne sait pas. Mais quand Dieu parle, mes amis, il s'agit d'une personne, il s'agit de lui. La parole de Dieu a une personnalité. Il s'agit de Dieu lui-même. Alors, quatrième chose, c'est que quand on utilise le mot « parole » dans la Bible, ça fera souvent référence aux Écritures saintes, aux Écritures inspirées de Dieu. Vous verrez chaque fois le mot « parole de Dieu, la parole du Seigneur, je m'attacherai à ta parole, à ta loi. » Le psalmiste passe, le psaume 119 a beaucoup parlé de la parole de Dieu. Là, il n'est pas en train de parler de Christ directement. Oui, par métaphore, oui. Mais il est en train de parler directement de la loi de l'Éternel, de la parole qu'il avait entre ses mains à son époque. Lui, il a parlé de ce que nous appelons Pentateuque, donc le cinq livres de Moïse au départ. Parce que lui, il est dans Psaume. Donc, on n'a pas encore canonisé le psaume lui-même. Ce que lui lit, c'est ce qui a précédé les livres de Moïse qui ont été révélés avant et ce qu'il avait de disponible à l'époque. Donc, la parole de Dieu, le mot « parole » dans la Bible, apparaît aussi pour parler des écritures inspirées de Dieu. Donc, je parle ici. Toute la Bible dans sa progression, ceux qui sont après la Pentateuque parlent de la Pentateuque, ceux qui sont après l'Ancien Testament parle de l'Ancien Testament. Donc, c'est ainsi que ceux qui sont dans la Bible, eux-mêmes parlent aussi d'un livre. Ils parlent aussi des écrits inspirés, même s'ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient en train d'entrer dans la Bible. Ceux, au moins du Second Testament, du Nouveau Testament dans les Évangiles, avaient conscience qu'il existait déjà un premier livre inspiré, le Tanakh, dans lequel se trouvaient la loi, les écrits et les prophètes. Ils étaient conscients d'un livre existant. Et la conscience du livre avançait au fur et à mesure qu'il était canonisé. C'est-à-dire lorsque les cinq livres de Moïse sont donnés, le peuple a pris conscience qu'il y a un livre sacré pour nous. Et ainsi de suite, au fur et à mesure. Vous arrivez par exemple à la restauration des livres à travers Néhémie et Esdras. On va retrouver les livres perdus, on va encore canoniser les éléments. Donc, au fur et à mesure que le peuple d'Israël avançait, le livre devenait plus clair, le canon devenait plus clair, le nombre de livres reconnus comme étant livres inspirés devenait plus clair. Donc, quand quelqu'un dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, parle de la parole de Dieu ou de la loi de l'Éternel, sachez qu'il parle certainement des livres qui ont précédé son époque. Tout le monde, surtout ceux de l'Ancien Testament, n'ont aucune conscience qu'il va avoir une Bible après. Et ceux du Nouveau Testament non plus. Ils ont au moins conscience qu'il existe un autre livre canonifié, qui est le livre de l'Ancien Testament, donc le Tanakh. Mais ils n'ont pas conscience que ce qu'ils sont en train eux d'écrire va finalement faire partie d'un seul et unique document appelé la Bible. Donc le mot « parole » dans la Bible, c'est aussi pour parler des Écritures Sainte. Lisons psaume justement, le psaume 119, versets 101 à 106. Psaume 119, versets 101 à 106. Versets 105, pardon, à 106. Juste deux versets. Voilà ce qui est écrit. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure, je le tiendrai. J'ai d'observer les lois de ta justice. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je le jure, je tiendrai d'observer les lois de ta justice. C'est le psalmiste, c'est David qui dit, ce que je connais de toi, le livre sacré que je lis, c'est la parole que tu as rendue disponible, ta loi, ô Éternel, m'éclaire. Elle est ma lumière. Il est ici en train de parler de la parole de Dieu comme les Écritures saintes, les Écritures inspirées. Donc, au cours de cette émission, pendant cette série en particulier autour de la puissance de la parole de Dieu, je ferai de temps en temps référence à la parole sous toutes ses formes. À un moment donné, je vous expliquerai la parole de Dieu, sa puissance, non pas seulement de la bouche de Dieu, mais sa puissance dans nos bouches à nous. Pourquoi je vous prépare avec tout ça? Parce que vous devez vous rendre compte finalement que la parole de Dieu, la puissante parole de Dieu, ce sont les Saintes Écritures. La puissante parole de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. La puissante parole de Dieu, c'est sa promesse dans l'engagement qu'il a avec nous. Il ne mentira jamais. Mais aussi, la puissante parole de Dieu, c'est lorsque notre esprit à nous est rempli de lui et que quand nous la prononçons, notre état d'esprit qui est devenu l'état d'esprit de Christ, notre mentalité qui est devenue la mentalité de Christ, la parole de Dieu qui a rempli nos cœurs, fait que nous devenons aussi des instruments de la manifestation de la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu cesse d'être puissante que dans sa bouche. Elle commence à être puissante aussi même dans nos bouches à nous. Oui, nous, simples êtres humains, si à nos cœurs, notre esprit est rempli de l'esprit de Dieu, nous ne pouvons qu'exprimer l'état de l'Esprit de Dieu. Donc, cette semaine va être fantastique. J'ai hâte que nous puissions entrer en détail sur cette grande question, sur la puissance de la parole de Dieu. Mais au courant de cette semaine, je reviendrai de temps en temps sur ce fait. Vous le savez, depuis un moment, à MCI, nous avons commencé une campagne de dons basée sur 20 000 partenaires mensuels. Cette œuvre fonctionne d'après le fait que chacun de nous fournit un effort, un sacrifice chaque mois. Vous savez, nous ne recevons pas des offrandes matin, midi, soir à chaque réunion. Nous sommes un ministère et c'est à travers les efforts que les uns les autres fournissent pour voir la parole de Dieu évoluer que cette œuvre évolue. Dieu nous a demandé de faire plus. Dieu nous a convaincus de continuer à avancer, à gagner les âmes. L'Éternel nous a appelés vers d'autres champs qu'il faudrait défricher encore. L'Éternel nous a prévenus de nous battre avec d'autres Goliaths. Alors, que faire? Nous allons juste faire comme David. David s'est battu. Les mêmes moyens qu'il a utilisés contre le loup et contre les ours, ce sont les mêmes moyens qu'il a utilisés devant Goliath. Maintenant, nous avons encore Goliath. Je suis sûr que le Seigneur va vous utiliser, vous encore. Vous qui avez toujours été là à contribuer mensuellement à EMCI TV, j'aimerais vous dire merci. Merci d'avoir toujours été là et merci de continuer. Nous voulons que ce nombre s'agrandisse, qu'on en arrive à 20 000 partenaires mensuels qui sont prêts à donner chaque fois 35 euros seulement. 35 euros seulement. Et toutes les promesses que Dieu a données dans sa parole au sujet de ceux qui doivent travailler, servir et contribuer dans son œuvre vont s'accomplir sur vous et elles n'ont pas besoin de nous. Et elles connaissent votre nom. Ces promesses vous connaissent. Vous savez, quand vous allez semer à terre, même si je disais à quelqu'un, même si cette personne est d'une si mauvaise vie, elle est impudique, elle est d'une vie mauvaise, elle parle mal aux gens. Lorsqu'elle va avec sa semence dans la saison, dans la bonne terre, elle dépose. La terre ne lui dit pas, toi vraiment t'es si mauvais, je ne veux pas donner de fruits, je ne vais rien donner. Non, il y a déjà une loi, il y a déjà un principe qui va au-delà de cet être humain, qui n'a plus besoin de juger qui il est. Ce principe va naturellement fonctionner. Il y a un principe des semailles et de la moisson. Ce principe va naturellement fonctionner tout au long de cette campagne. Alors quand vous avez pris ces coordonnées qui venaient d'apparaître tout à l'heure et vous êtes allé sur notre site internet, prenez cet engagement de vous dire « Je vais travailler avec vous chaque mois et je donnerai ma contribution minimale de 35 euros. » Et le Seigneur, je suis sûr, vous bénira énormément. Mais en attendant, voyons-nous demain pour continuer notre formation en tant que disciples sur le sujet de la puissance de la parole de Dieu. Ça va être vraiment intéressant. Vous allez voir, ça va nourrir votre cœur et votre esprit et je suis sûr que vous allez aimer et grandir. Alors, on se voit demain. Let's teach! Grandissons ensemble.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.